La Voix de Lille. L'Europe, financeur majoritaire des projets du Pays de Lille. Une émission Radio Libre en Périgord présentée par Yanis Sanchofort, étudiant à la MFR de Périgueux et apprenti à Radio Libre en Périgord. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Voix de Lille, dans laquelle nous découvrons les fonds européens au sein du Pays de Lille en Périgord. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder la notion de groupe d'action locale et comprendre son implication dans les rouages des fonds européens. Qu'est-ce qu'un groupe d'action locale, plus communément appelé GAL? Dès le moment qu'il y a des fonds européens dans une région, il y a automatiquement un GAL. Mais comment est-il composé? Quel est le but de cette instance? Quel est son fonctionnement? Pour y répondre, j'ai eu la chance de rencontrer Nils Fouchier, qui se présente.
Je suis Nils Fouchier, je suis le maire de la commune de Saint-Gérac, petite commune de 200 habitants, à l'est de l'agglomération du Grand Périgueux, et je suis de fait conseiller communautaire, et j'ai été élu par le conseil communautaire du Grand Périgueux, avec d'autres élus, pour représenter le Grand Périgueux au Pays de Lille, en Périgord, qui regroupe 4 communauté de communes, enfin une communauté d'agglomération, le Grand Périgueux et 3 communautés de communes. Au conseil syndical d'installation du pays, j'ai été élu vice-président. Je fais partie j'occupe la troisième vice-présidence en charge des politiques contractuelles et j'ai été mandaté par le conseil syndical du Pays de Lille pour le représenter au GAL, qui est une instance qui est intégrée dans le cadre du pays et qui s'occupe du suivi et de la mise en place et du développement des subventions liées à l'Union européenne, notamment sur le FEDER Objectif 5 et le LEADER, qui sont deux politiques de financement de l'Union européenne.
J'ai également pu assister à un groupe d'action locale dans lequel les membres se sont réunis. En dehors des membres et des porteurs de projets, peu de gens y ont accès. Grâce à l'aide de Sarah Guidelman et de Nils Fouchier, j'ai pu observer le fonctionnement du GAL. Dans l'émission précédente, j'ai pu vous présenter la démarche pour accéder aux fonds européens. Eh bien, le GAL, c'est l'instance délibérante qui étudie chaque dossier avec le plus grand soin et accepte ou non les demandes de subvention. Avant de parler plus en détail de son fonctionnement, comment est composé le GAL?
Alors, le GAL est composé d'élus qui sont mandatés par les communautés de communes et la communauté d'agglomération. Par des personnes de la société civile. Alors, personnes de la société civile, ce sont des représentants d'associations, d'acteurs du territoire à l'échelle du pays. Donc, on peut retrouver des représentants de l'office de tourisme, on peut trouver des représentants d'associations, on peut retrouver des représentants, on va dire, peut-être pas d'entreprise, mais au-delà d'associatifs, des représentants de syndicats, des représentants de, voilà, je parle pas de syndicats d'employeurs ou de syndicats salariés, je parle de syndicats, représentants des syndicats, pas collectivité territoriale, mais qui interviennent sur un certain nombre de dossiers d'aménagement sur le territoire. Ce collège de représentants privés est supérieur au collège des représentants élus. Donc on a un double quorum à atteindre. Il y a un certain nombre de personnes à atteindre pour que le GAL puisse délibérer. Et il faut que les personnes qui représentent la société civile soient nettement supérieures. Il y a un pourcentage, Sarah le connaît mieux que moi, et qui permet d'avoir ce double quorum. Donc ça veut dire qu'il faut aussi plus de personnes de la société civile que d'élus.
Le GAL compte 48 membres et pour que la séance débute, il faut que 40% du total soit présent, avec une majorité, comme vient de le dire Nils Fouchier, du côté du collège privé. Le déroulé du GAL se présente comme cela. En premier, il y a une étude du précédent GAL, certains points sont revus par le biais d'un vote à main levée. Ensuite, les porteurs de projets prennent la parole afin de présenter leur projet de la façon suivante. En premier, ils présentent leur projet. Ils présentent ensuite la situation actuelle et les problématiques rencontrées, avec le contexte et les enjeux. Ensuite, il y a les actions envisagées, il y a les avantages de ce projet pour le territoire. Ensuite, il y a un plan de financement, et les différents membres du GAL posent ensuite des questions aux porteurs de projet afin de mieux comprendre et approfondir les informations pour évaluer après. Une fois les projets présentés, les porteurs s'en vont. Une grille d'évaluation identique pour chaque projet est utilisée pour les noter.
Le GAL se réunit autour d'une grille d'évaluation avec des critères très 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 précis et très transparents. Juste dire que cette grille, elle est connue des porteurs. Donc ils l'ont. Donc ils savent, grosso modo, comment va être jugé leur projet qu'ils vont présenter. Il y a une double analyse, une analyse par rapport à l'écrit du projet qui est déposé, et puis il y a une analyse aussi de l'oral qui peut être complémentaire des données de l'écrit. Et il y a des projets qui ont été, qui étaient, on dirait, mal partis à l'écrit, et qui ont été rattrapés grâce à l'oral. Voilà. Et d'autres qui marchent, quoi qu'il arrive. Sur ce, cette grille, elle est très 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 précise et très transparente. Il y a très peu de débats. Là où on a eu des points où il y avait des zones de confusion, manque de précision, le GAL s'est saisi de la grille et l'a retravaillée. Donc là, on a abouti à des grilles d'évaluation qui sont relativement précises. Et quand je dis que le GAL s'en est saisi, c'est que moi, le président du GAL, je m'en suis même pas occupé. Ce sont d'autres membres du GAL qui ont fait des précisions, qui ont travaillé la grille, et derrière, on a eu une commission où on a validé le principe de... La grille a été revalidée en GAL, général. Voilà. C'est pas moi qui ai piloté. Sarah, bien sûr, la technicienne, voilà. Moi, j'ai donné mon avis, mais j'étais pas dans le groupe qui a travaillé. Et il y a un groupe qui s'est retrouvé, qui a travaillé. Et dans ce groupe, il y avait, je crois qu'il y avait même pas un élu. C'était uniquement les personnes de la société civile qui avaient travaillé. Donc toute cette proposition a été malaxée au GAL, retravaillée, reposée et revalidée en GAL. Voilà.
Ok.
Donc il y a vraiment une démarche où les gens sont partie prenante. Ils sont membres du GAL et ils sont vraiment membres en tant que participants.
Le président du GAL et la chargée des fonds européens ont déjà déterminé une notation basée seulement sur un dossier écrit rédigé par le porteur de projet, qui est ensuite étudié au GAL. Si la notation est dite ouverte, que la note n'a pas été établie au préalable au GAL, ou qu'elle ne convient pas aux membres du GAL, une discussion est ouverte afin de déterminer ou de changer la note. Suite à cette discussion, le GAL effectue un vote à main levée. Moins de 11 points, l'avis est défavorable. Entre 12 et 23, le projet est ajourné. Plus de 24, l'avis est favorable.
Alors, un GAL, ça dépend. Il y a des GAL, moi, je vais vous parler du GAL du Pays de Lille en Périgord. Hein. Je ne vais pas vous parler du GAL du Périgord vert ou du Périgord pourpre ou du Périgord noir, parce qu'ils ont tous, visiblement, une façon de travailler différemment. Et puis, il y en a bien plus sur la totalité de la Nouvelle-Aquitaine. Le GAL, moi j'ai souhaité que le GAL soit un temps de travail, d'échange et de débat où tout le monde a la parole. Je n'ai pas souhaité que ce soit une chambre d'enregistrement qui délibère et qui valide des décisions qui sont prises en amont, travaillées par quelques techniciens. Donc résultat des courses, j'ai souhaité qu'ils se réunissent souvent. Donc sur un rythme, pas tout le temps, mais j'aurais aimé tous les mois. Parce que derrière, c'est par la répétition de travailler ensemble, qu'on crée une dynamique de groupe. Et je trouve qu'on a atteint l'objectif. Voilà. Et à l'intérieur, il y a du débat, tout le monde peut parler, tout le monde peut, avoir du poids sur la décision. Et ça se voit puisqu'on a un taux d'assiduité qui est assez important. Et résultat des courses, je trouve qu'on a réussi à créer une instance de débat, d'échange, d'analyse. En plus dans une logique un peu de convivialité, de respect, et qui fait qu'aujourd'hui, on a un GAL qui est assez reconnu, voilà, y compris par l'instance régionale.
Ce fonctionnement, il est propre au GAL du Pays de Lille en Périgord. Chaque GAL a son fonctionnement. Niels Fouchier nous parle plus en détail de la manière dont les porteurs viennent présenter leur projet au GAL.
Alors, ça a été aussi une volonté, hein, que les gens viennent présenter leur projet. Mm-hmm. Alors c'est assez rigolo parce que c'est comme un grand oral. Il y a même des élus, hein, qui sont des élus de communes importantes, hein, qui ou des représentants de ces élus. Je me souviens par exemple une anecdote de la ville de Périgueux, quand même, ce qui est pas une petite commune. Mm-hmm. Qui sont venus, alors c'était pas Madame le maire à l'époque, hein, c'était des adjoints, mais qui ont vraiment pris au sérieux l'exercice de présentation de leur projet. Donc il y a quelque chose, quelque chose de humble, et il y a quelque chose aussi où l'instance du GAL est reconnue et respectée. comme étant une instance décisionnaire. C'est pas comme si c'était tout est joué avant, d'avance, entre le président du pays, le président d'une communauté de communes, le maire en question, on s'est téléphoné en amont, et tout roule, on fait le dossier, pas du tout. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, on vient présenter, c'est un grand oral, pourvu que ça passe. Et après la présentation, le...
Nils Fouchier tient à rappeler que les fonds européens dépendent de la région, qui délègue une partie du FSE au département et le leader et une partie du FEDER au pays.
Bah, de toute façon, l'organisme de tutelle, c'est la région. Je rappelle que les fonds européens sont gérés par la région et la région délègue. Donc, elle a délégué au département une partie du FSE et elle délègue une partie, donc le leader et une partie de l'objectif du FEDER à travers l'objectif 5 du FEDER au pays qui sont une instance qui permet de travailler les fonds européens de façon beaucoup plus locale. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui dit non, les fonds européens sont accessibles et les fonds européens peuvent être utilisés par les territoires. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque axe des fonds européens qui sont fixés par l'Union européenne, hein, donc il y a des règles, les fonds européens ne peuvent pas servir à financer tout ce qu'on veut, ces axes-là permettent derrière quand même d'être reprécisés par une analyse beaucoup plus fine et un besoin beaucoup plus fin des territoires. Du coup, on arrive à quelque chose qui est vachement intéressant, c'est qu'on arrive à quelque chose qui inverse la notion, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas face à une politique publique qui est descendante, on est plutôt dans une politique publique qui est montante. Pour reprendre les termes techniques, hein, qui sont très anglo-saxons, on n'est pas sur du top-down, on est sur du bottom-up. Voilà, donc on monte, bottom, sol, up, vers le haut. Et le GAL est plutôt une instance comme ça, et c'est comme ça que vous pouvez remarquer aussi la notion de démocratie participative. Voilà. Et on travaille main dans la main avec la région, qui est grosso modo l'organisme de tutelle. Hein. Ouais. Donc tout ce qui est fait est validé par la région. Puisque c'est elle qui rend compte à l'Union européenne.
Ouais.
Voilà. Donc si elle délègue des choses, il faut à tout prix que ce qui est délégué soit validé par la région.
Oui.
Voilà, dans le cadre légal de l'utilisation des fonds européens.
Il note également qu'il y a de plus en plus de projets qui font appel aux fonds européens. Cette démocratisation des fonds européens est liée aux baisses de subventions de manière générale et les institutions et associations se tournent vers d'autres financements tels que les fonds européens.
Il y a eu plus de projets, moins importants en termes de base financière, mais plus de projets. Et on voit que les fonds européens sont quand même des effets leviers. Il y a quand même, pas la majorité, mais une belle, j'ai oublié le pourcentage, il était dans le dernier GAL, mais il y a quand même, je crois, pratiquement un tiers des projets, si c'est pas 40%, maintenant je commence à me poser la question, faudra vérifier auprès de Sarah Gidelman, qui, en gros, l'effet levier, c'est simple, c'est 80% du financement qui est assuré par les fonds européens. Donc on voit bien quand même qu'il y a un vrai effet levier, qu'il y a une vraie démocratisation du financement, que ce sont des petites communes, et pas que les grosses, qui ont des services organisés, et des associations qui viennent sur ces fronts-là. Oui, je pense qu'il y a une démocratisation. Une démocratisation qui est un peu forcée, je vous l'ai dit, hein, parce que derrière, il y a moins de financement ailleurs, et les fonds européens renvoient une rigueur administrative et comptable qui peut faire peur. Voilà, même si la région aujourd'hui fait le rôle d'amortisseur sur ça, donc ils sont quand même assez bien. D'ailleurs, ils ont créé un service spécifique, voilà, et qui monte en gamme. Voilà. Oui, je confirme. Oui, il y a une démocratisation. Les fonds européens sont un peu moins éloignés.
Tout comme Sarah Gidelman l'a souligné, la prochaine programmation n'est pas encore claire. Et justement mise à mal selon la feuille de route de l'Europe.
Pas forcément en termes de contenu, de détails du contenu. Par contre, elle est en cours parce qu'elle est en train d'être mise à mal. Voilà, l'Union européenne a donné sa feuille de route. Maintenant, les États membres sont en discussion. Donc, bien évidemment, il y a un lobbying qui se fait dans tous les sens. Hein. Et les Galles font partie, puisqu'il y a une Fédération nationale de Galles, une Fédération européenne des Galles, et puis une Fédération nationale des pays, et une Fédération européenne des pays, et puis il y a une Fédération régionale, enfin, il y a une Association nationale des régions, et puis il y a une Association européenne des régions, etc. Tout le monde est en train de faire son lobbying. Ce qui est inquiétant, c'est que les fonds européens sont annoncés à la baisse minimum de 20%. Deuxième, c'est qu'il y a une fusion de tous ces fonds européens en une seule grosse poche dans laquelle on va pomper, et y compris, donc on a réussi là dans les négociations, il y a un fonds qui a déjà quitté cette grosse poche, c'est la PAC. Voilà, mais le leader qui est lié à la PAC, sur un fonds PAC, le leader lui est bien menacé. Voilà, et cette baisse, elle est de minimum 20% et elle risque d'être plus. Pourquoi ? Parce que l'Europe a décidé de se lancer dans une logique de réarmement en lien avec la guerre en Ukraine. Et puis les derniers événements démontrent qu'il va falloir quand même que vis-à-vis de l'OTAN, il y a un lien, et je pense que l'Europe va participer à cet effort militaire. Et la deuxième, c'est qu'il y a quand même le rapport Draghi qui a démontré quelque chose qui avait été démontré aussi par la crise du Covid et puis déjà avant. Mais on a envoyé toute l'usine mondiale en Chine ou en Inde ou aux Philippines ou au Vietnam, enfin l'Asie du Sud-Est,
ouais.
Mais qu'il va falloir réindustrialiser l'Europe, et que si on veut d'ailleurs, un, garder notre autonomie, deux, ne pas être dépendant en temps de crise, de pandémie ou de choses comme ça, l'histoire des masques, c'est écrit encore,
ouais.
Et y compris aussi l'histoire du paracétamol, et donc il y a bien sûr une volonté de réindustrialiser l'Europe, et ça se passe avec des moyens financiers qui se feront au détriment des fonds européens classiques. Donc effectivement, il y a un vrai risque de perdre ça. Et l'autre danger, c'est que dans le cas du plan de relance suite à la crise du Covid, il y a eu une gestion d'un plan de relance qui a été géré au niveau national de façon très descendante, top-down. Voilà. Et on ne sait pas du tout si ça a été bien consommé. Visiblement, la prime Rénov' a posé quelques problèmes. Elle en fait partie de cette politique publique de top-down, de ce plan de relance, et que du coup, on s'interroge, mais eux ont l'impression que comme l'enveloppe a été très bien consommée, ou vite consommée, c'est peut-être la meilleure méthode. Et donc, le côté bottom-up, pays, Galles, on part des territoires, des projets des territoires, etc., est un peu mis à mal aujourd'hui, avec une volonté d'avoir une politique publique nationale qui s'applique à tous les territoires. Voilà. Donc les régions sont pas d'accord, les pays sont pas d'accord, et on est en phase de négociation. Mais vous savez, l'Union européenne, là, c'est les négociations. Alors est-ce que c'est une décision à l'unanimité ? Est-ce que c'est une décision à la majorité qualifiée, mais qui doit représenter tant de pays, dont à l'intérieur tant de pays qui sont avec tant d'habitants ? Voilà, on joue un jeu compliqué, on l'a vu pour le Mercosur, hein. Il suffisait que l'Italie reste dans le camp opposé, le Mercosur n'était pas signé, et puis ils ont réussi à faire tourner l'Italie, et donc le Mercosur a été signé, malgré l'opposition de la France, de l'Espagne, de la Belgique, voilà, donc, et de la Pologne, et donc on voit bien quand même que les règles de décision de l'Union européenne sont éloignées des territoires, et alors je vous parle pas éloignées du territoire du Pays de Lille en Périgord. Quoi.
Rappelons que la démarche de subvention est assez complexe et chronophage pour certains types de porteurs de projets. De ce fait, certains porteurs font l'impasse sur ces fonds. J'ai profité de cet entretien avec lui pour lui poser la question de la simplification de cette demande. Mais selon son expérience, le dossier ne risque pas de se simplifier dans le futur.
Moi, j'y crois pas. Tout simplement parce que moi, à titre professionnel, je suis aussi sur les fonds européens depuis 2007. Mmh. Et que ça va pas du tout en simplification. Mmh. On est vraiment dans la logique de la preuve. Il faut même le prouver avant que le projet ait commencé. Et effectivement, c'est très lourd. Il faut beaucoup de pièces administratives. Mmh. et ça prend du temps, c'est chronophage. Effectivement, ça demande de l'ingénierie qui n'est pas financée pour les petites structures. Alors Sarah Gidelman est bien là pour les aider, hein, et elle est censée, et elle le fait. Mais mine de rien, il y a quand même un travail important. C'est surtout un travail de pièce administrative. C'est pas forcément, on n'a pas besoin d'avoir fait polytechnique et de savoir maîtriser les équations à 40 inconnues. Hein. Mais par contre, ça demande une rigueur. Une rigueur administrative, il faut garder toutes les pièces, il faut les garder pendant 10 ans, il faut, faut monter toutes ces pièces, et c'est parfois un peu compliqué, effectivement, c'est un peu fastidieux. Alors effectivement, les associations, on est plutôt sur la logique de on a une idée, de l'idée au projet. Oui, d'accord, mais sauf que de l'idée au projet, basculer sur les fonds européens, c'est de l'idée au projet avec en plus une rigueur administrative qui est très lourde, effectivement, mais qui est très lourde, à partir du moment où c'est mis en place, la procédure est mise en place et que c'est réglé, le travail se fait. C'est pas infaisable. Voilà. Et puis, de toute façon, il y a la région, quand même, qui fait tampon et qui permet de dire, attention, le dossier est pas complet, il nous manque ça, ça, ça. À vous de faire en sorte de me donner ça, 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 pour que, parce que gérer directement avec l'Union européenne, je peux vous assurer, c'est pas rigolo, je l'ai déjà fait. Vous avez des gens qui viennent faire un contrôle sur site, il y en a pas un qui parle français.
Pour finir, je lui ai demandé s'il avait des conseils à donner aux porteurs de projets, et voici sa réponse.
Pas forcément, parce que j'ai trouvé que les projets qui étaient déjà déposés étaient intéressants. Le conseil, la seule chose que je peux conseiller, c'est ayez une rigueur administrative, parce que l'Europe vous lâchera pas. Voilà. Quitte à récupérer les sous, ou une partie. Donc il faut vraiment avoir une rigueur administrative. Le conseil que je peux donner auprès des collectivités territoriales, c'est faites très attention à vos appels d'offres. Voilà. Il faut vraiment tout faire comme il faut. Quitte parfois, parce que parfois il y a des gens qui oublient de faire des choses toutes bêtes, comme par exemple, ben, on répond positivement à celui qu'on a retenu, mais on oublie de répondre négativement aux autres. Or l'Europe va demander le courrier. Si vous avez oublié de répondre négativement, voilà, des petites erreurs. Pour des petites communes, vous voyez, des petites communes de 400 habitants, avec une secrétaire qui n'est pas là à temps plein, bingo, ça tombe, c'est juste une bêtise, un oubli, sauf que derrière, il n'y a pas la pièce, on ne peut pas l'antidater, et résultat des courses, on perd les sous. Voilà, donc la région temporise, la région alerte, mais voilà, c'est mes conseils, c'est ça. Après, l'autre élément, c'est d'être vigilant sur les perspectives qui vont arriver, parce que je pense que l'enveloppe sera moindre. Je pense que les fonds européens seront, donc, à partir du moment où il y a moins d'enveloppe, le gâteau sera plus petit à se partager. Donc peut-être d'anticiper. Voilà, les programmations rentrent là, on vient de faire les élections municipales, enfin il reste un second tour, mais la grande majorité des communes, c'est fini déjà dès le premier tour. Là, on est sur une période où 2026, 2027, 2028, il y aura plus grand-chose, puisque les fonds européens, on arrive à la fin. Hein, nous, le GAL, on est aujourd'hui, on a des projets sur liste d'attente, mais c'est fini. Ouais. Voilà, aujourd'hui on peut dire c'est fini, sauf quelques rares corrections d'enveloppe qui seront faites, peut-être un ou deux ou trois projets de la liste d'attente seront pris, mais les autres aujourd'hui c'est fini. Par contre, on arrive dans un nouveau mandat, et à moitié mandat, il va y avoir de nouveaux efforts. Et je pense qu'il faut anticiper les choses, parce que vu la durée que ça prend, il arrive que le projet puisse pas être terminé avant la fin du mandat. En termes de timing. Donc là, ceux qui ont envie d'aller sur des projets sur lesquels ils vont, il faut peut-être commencer à bien réfléchir le projet pour que les choses soient prêtes dès que le feu vert est ouvert. Voilà, dès que le feu sera ouvert. Mais là, on n'en sera pas plus avant 2028. Et je rappelle quand même qu'entre 2028 et aujourd'hui, il y a quelques élections nationales qui vont tomber et qui peuvent changer aussi la donne. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas de grands conseils à donner. L'enveloppe actuelle, elle est quasiment consommée et les perspectives d'avenir sont très floues. Donc j'ai pas de grands conseils. Sauf la chose, c'est de se dire, voilà, si j'ai vraiment envie d'aller sur des fonds européens, faut que j'ai quand même bien préparé mes dossiers en amont. Parce que le gâteau risque d'être beaucoup plus petit.
Cette émission touche maintenant à sa fin. Les prochaines émissions seront dédiées aux différents porteurs de projets. En attendant, je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de Radio Libre en Périgord et à bientôt.
C'était La Voix de Lille. L'Europe, financeur majoritaire des projets du Pays de Lille. Une émission Radio Libre en Périgord présentée par Yanis Saint-Chauffort, étudiant à la MFR de Périgueux et apprenti à Radio Libre en Périgord.